Vendredi, à partir de 11h sur Canal FM pour le débat.
Oh, shalom.
Production généralement de type artisanal.
C'est chemin faisant que les gens se retrouvent pour parler de ce qu'ils ont démarré. Alors qu'il y a eu des vacances.
C'est pour soulager les femmes dans tous les secteurs, pas seulement que les portefeuilles.
Mais... Oui, je suis d'accord. Mais j'ai dit pour le moment, il n'y a pas un vide, quoi.
On attend, et à une période de l'année, ça reprend, rebelote l'année prochaine, rebelote.
Par rapport à ce dossier-là, franchement,
moi, je n'ai pas rencontrer quelqu'un quand même.
Si vous ne bénéficiez pas d'une santé mentale, vous ne pouvez pas vous épargner, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas réfléchir.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Assalamu alaikum, shalom, bonjour. On peut y ajouter Guten Tag parce que aujourd'hui c'est jour de fête nationale en Allemagne. C'est le jour de l'unité en référence à la réunification de l'Allemagne, unité réalisée le 3 octobre 1990 lorsque Helmut Kohl était encore kanzler ou chancelier. C'était l'occasion pour l'Allemagne, à savoir la République fédérale d'Allemagne d'un côté, la République démocratique allemande de l'autre, de fusionner et de former l'Allemagne que nous connaissons aujourd'hui depuis 33 ans. Que la fête soit belle auprès des Allemands et de leurs amis, dont nous. C'est l'occasion pour vous faire découvrir un projet piloté par le Goethe-Institut de Lomé, projet intitulé Vivre et travailler en Allemagne. Mais nous aurons d'autres rubriques, notamment la page culture et art que nous associons à les arts dans la société, ou encore le sort des travailleuses domestiques. Oui, elles sont avec nous, nous les côtoyons, mais est-ce que nous sommes toujours conscients des conditions dans lesquelles nous les faisons travailler pour notre bien? Et puis d'autres préoccupations de proximité. Pour aborder tout ça, la pensée du jour, nous paraphrasons notre compatriote Nikabou Makani, qui s'apprête à sortir un tout nouveau livre intitulé « Femmes rebelles ». Nikabou Makani, qui s'apprête à publier son troisième roman intitulé « Femmes rebelles ». Et nous sommes tombés sur cette phrase qui nous amuse un peu pour nous et pour vous, où il dit « Dans notre société d'aujourd'hui, le mensonge est doux à écouter, la vérité amère à entendre. » À la fin de l'émission, vous nous direz si Nikabou a raison de penser qu'aujourd'hui, le mensonge est doux à écouter, la vérité amère à entendre, s'il a tort ou s'il a raison, vous le direz en fin d'émission. Naturellement, nous vous saluons, vous toutes et vous tous qui êtes en place pour écouter le Club La Presse sur Canal FM, dans Lomé et ses environs, mais également toutes les radios partenaires, Radio Lumière en Erreur, Radio La Paix à Takpamé, Radio Centrale FM à Sokoré, Radio Sama FM à Niamtougou Baga, Radio Daoul à Bassa, Radio Courtoisia Dapan, mais dans le monde entier, Radio Le Bénin, Ebene Radio, toutes autres applications par lesquelles vous percevez cette émission, que vous soyez en Afrique, dans les Amériques, en Europe, en Asie, en Océanie, sur toutes les îles. C'est une prouesse réalisée par les techniciens Ete Kossi Thomas Datevi et Gérard Kodjo Akucha. Nos invités, commençons justement par les invités. Alors, ils sont deux, ils viennent du Goethe-Institut de Lomé pour nous parler du projet intitulé « Vivre et travailler en Allemagne ». Pour nous en parler, Madame Abra Akpene-Foli, bonjour.
Bonjour.
Ou plutôt Guten Tag.
Ja, Guten Tag.
Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Eh bien, Abra Akpene-Foli, c'est elle qui coordonne ce projet intitulé « Vivre et travailler en Allemagne », projet logé au Goethe-Institut. Et il a pour assistant administratif Koumana Damorou, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être à nos côtés pour nous faire partager ce projet. Comment nous pouvons espérer aller vivre et travailler en Allemagne? Sur les autres rubriques, nous sommes mardi. Vous vous dites bien que nous sommes avec Eric Hugues Pacou de Johnson. Bonjour.
Bonjour Sass, bonjour chers invités, bonjour chers collègues, bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM.
Eric qui est avec son alter ego du mardi, il s'appelle Isidore Sassou Atialo Akolo, bonjour.
Bonjour Sass, bonjour aux invités, bonjour aux confrères et bonjour à toutes et à tous.
Merci naturellement.
Si vous permettez.
Oui, Isidore.
Vous avez commis un crime au laisse majesté.
Ah, lequel?
Félix Nicabou, il faut parler de son grade, de son diplôme.
Ah, docteur! Ah, docteur Nicabou Makani,
tout le monde.
Qui s'apprête à publier dans les tout prochains jours son quatrième roman intitulé Femme rebelle.
Et autre observation,
oui.
Ça c'est une interpellation. Hein.
Mm-hmm.
C'est pas si c'est le gouvernement togolais qui a fléchi ou quoi. Le 3 octobre dont vous parliez,
oui.
Je m'attendais à ce que la réunification des deux Allemagnes puisse rejaillir sur la réunification du Togo aussi. Depuis plus de 30 ans, on est là. Le Togo ne s'est jamais...
Depuis plus de bientôt 70 ans, mais Isidore...
Depuis plus de 70 ans. Donc, commençons par la réunification des deux Allemagnes.
Oui.
Et suite... à la guerre froide, c'est juste là. Mais au fait, on a subi le même sort comme le Cameroun et le Nigeria.
Oui.
Le Cameroun a pu récupérer Bakassi.
Oui.
Le Togo est resté là.
Mais
on n'a pas pu réunir. Permets que
ce
je puisse
sont
terminer.
Les Allemands qui ont réalisé leur unité. Que
mais
les
écoutez,
Togolais réalisent également leur unité.
Non. C'est la fin de la guerre froide. C'est les Américains qui ont provoqué ça. Et bien, pourquoi Isidore, ça ne peut pas réagir sur nous?
Nous allons demander d'aller voir ceux qui ont divisé le Togo allemand pour le réunir.
Mais c'est la conférence de Berlin.
Merci Isidore. Hein, c'est une question qui te tient à cœur, mais ce sont les peuples qui font leur histoire.
Nous sommes.
Comment vivre et travailler en Allemagne? Madame Abra Penin-Folli, rebonjour.
Oui, rebonjour.
Vous coordonnez ce projet, d'après mes informations, c'est un projet que vous avez ouvert en août 2023 et qui court jusqu'au mois de juin 2025, n'est-ce pas?
Ouais.
Eh bien, en quoi consiste ce projet intitulé « Vivre et travailler en Allemagne » ?
Le projet « Vivre et travailler en Allemagne » consiste à préparer les gens depuis leur pays d'origine sur la vie quotidienne et le travail en Allemagne.
Mm-hmm.
Nous leur fournissons des informations utiles sur la vie quotidienne et le travail en Allemagne à travers nos séances de conseil personnel, des séances de formation et d'information.
Mm-hmm. Donc, comme vous l'avez dit, vous coachez les gens à pouvoir se rendre en Allemagne et y travailler. Mais quels sont les groupes cibles sur lesquels vous travaillez?
Notre premier groupe cible, c'est le regroupement familial. Les personnes désirant rejoindre leur conjoint ou conjointe en Allemagne d'une façon légale.
Mm-hmm.
Et le deuxième groupe cible concerne les travailleurs qualifiés. Ceux qui ont une qualification professionnelle et qui décident d'une raison quelconque ou autre de vivre en permanence en Allemagne et d'y travailler.
Donc, si je vous suis bien, deux groupes essentiellement, ceux qui sont concernés par le regroupement familial, l'un ou l'autre qui vit déjà en Allemagne, le ou la seconde veut le ou la rejoindre.
Oui.
Et deuxième de ce secondo, ceux qui ont une qualification professionnelle recherché en Allemagne et qui voudrait aller y travailler.
Oui.
Alors, pour ce second groupe, est-ce que c'est vous qui identifiez un travail vacant en Allemagne pour lequel vous sollicitez des candidatures ici, ou bien comment ça s'organise, madame?
Et si la personne décide d'elle-même de vivre en permanence en Allemagne et d'y travailler, il vient vers nous et nous avons des séances de conseil personnel où nous donnons des directives à la personne sur comment chercher de l'emploi en Allemagne et comment migrer vers l'Allemagne d'une manière légale.
Donc c'est quand les gens viennent à vous que oui. vous les coachez, que vous oui. les aidez.
Parce que nous ne motivons pas les gens à quitter le pays. Mmh. Mais si la personne décide d'elle-même, c'est-à-dire volontairement, de quitter le pays, nous allons l'accompagner.
Merci, madame. Je viens à vous, monsieur Damaru. Quels sont les objectifs que ce projet poursuit?
Merci beaucoup, monsieur Sasgao, pour la question. Je peux dire, le premier objectif consiste à créer des cadres légaux pour pouvoir favoriser.
Vous insistez beaucoup sur la procédure légale.
Exactement. C'est parce que nous tous, nous sommes sans savoir le nombre de morts que chaque année la mer engloutit. Donc, l'Union européenne, qui est un fonds qui soutient ce projet, donc, a définir des cadres légaux pour pouvoir accompagner cette migration qu'on appelle une migration légale.
Mmh.
Voilà. Donc, le deuxième objectif, c'est de pouvoir préparer les gens à certaines réalités pour éviter les chocs interculturels. Mmh. Donc, que les personnes qui veulent migrer soient déjà au courant de certaines réalités afin qu'arriver dans le pays, afin qu'arriver en Allemagne, elles ne soient pas déçues ou bien qu'elles ne soient pas désemparées.
Mmh.
Voilà.
Et quelles sont quelques-unes de ces réalités dont on doit être bien pénétré avant de vouloir aller s'établir en Allemagne?
Par exemple, quand la personne veut aller en Allemagne, il faut que la personne sache comment se comporter. C'est-à-dire, quand la personne arrive, par exemple, à l'aéroport de Munich, par exemple, quelle est son attitude? Quelle est l'attitude à adopter? Quelles sont les agences? Ou bien, quelles sont les structures auprès desquelles la personne doit s'adresser ou bien doit aller pour pouvoir avoir les informations de première main pour pouvoir mieux s'orienter en Allemagne, par exemple.
Je présume que l'une des conditions essentielles, c'est de pouvoir quand même dire Guten Tag.
Exactement.
Pour ne pas dire savoir parler un peu l'allemand.
Exactement, oui. Monsieur Sagao.
Merci. Je viens à vous, madame Folly. Est-ce que votre projet organise des séances d'entraînement aux expressions relatives à la vie quotidienne, comme l'ami Damaru le dit, dans le cadre, par exemple, du regroupement familial?
Oui, nous organisons des séances dans le cadre du regroupement familial et concernant les expressions de la vie courante de l'Allemagne et des expressions sur le monde du travail de l'Allemagne. Mm-hmm. Nous avons demain, par exemple, un séminaire pour le regroupement familial à l'Institut Goethe à 14h portant sur les stratégies d'apprentissage de la langue allemande.
Mm-hmm.
Et la semaine suivante, si Dieu le permet, nous avons encore prévu une séance de l'entraînement sur le parler. Comment parler l'allemand, oralement.
Mm-hmm. Et M. Damaru, vous parliez tantôt de faire en sorte que les gens ne soient pas surpris par le choc culturel. Justement, est-ce que le projet comporte un volet portant sur des séances d'ateliers interculturels?
Oui, en effet, nous avons des séances d'ateliers interculturels que nous allons organiser dans les semaines à venir. Et nous avons pour objectif de pouvoir, comme vous l'avez si bien dit, aider les personnes à pouvoir s'imprégner de ces réalités afin qu'elles sachent déjà ce qui les attend dans le pays destinataire ou bien dans le pays d'accueil.
Mm-hmm.
Et par rapport à cela, nous avons une manifestation que nous allons organiser le 12 octobre. Il s'agit du voyage virtuel dans la ville de Thuringe en Allemagne, où les participants auront l'occasion de pouvoir découvrir la ville de Thuringe, les avantages, les possibilités que cette ville offre, par exemple. Mm-hmm. Voilà.
Ok. Alors, vos séances, est-ce qu'on vient vous voir physiquement ou bien est-ce que vos offres sont en ligne? Madame Folly?
Il y a des séances en présentiel et des séances aussi en ligne pour ceux qui désirent nous recevoir en ligne.
Mm-hmm.
Oui. Nous avons des séances de conseil personnel, c'est soit en présentiel, soit en ligne. Mais en ligne, nous avons des offres aussi comme Mon chemin vers l'Allemagne. Et vous trouverez là des réponses aux questions fréquemment posées et des informations utiles sur la vie et le travail en Allemagne, ainsi que des exercices interactifs et ludiques pour pratiquer et améliorer vos connaissances en allemand.
Mm-hmm.
Nous avons également pratiqué l'allemand gratuitement pour améliorer vos connaissances en allemand et faciliter votre intégration en Allemagne. Nous avons aussi mon livret allemand qui donne des informations sur une première orientation en Allemagne. Les sujets qui y sont traités sont mes premiers pas en Allemagne. Comment débuter un emploi? Les finances, la vie familiale, les loisirs, où trouver de l'aide en cas de difficulté.
Tout ça, là, on peut s'en imprégner soit en ligne ou bien en venant vous voir. Oui. Et vous êtes bien logé au sein du Goethe-Institut.
Oui.
Merci. Alors, est-ce que vos prestations sont payantes? Je viens vous voir pour aller travailler en Allemagne ou bien pour aller rejoindre ma conjointe. Est-ce que je dois vous payer pour le coaching que vous m'offrez?
Toutes nos prestations dans ce domaine de ce projet sont gratuites. Nous ne prenons rien. Mm-hmm. Nous accompagnons gratuitement.
Alors, si je me permets de résumer, quelqu'un veut s'établir en Allemagne pour rapprochement conjugal, familial, ou bien aller s'établir en Allemagne et travailler. On vous approche, hein, vous aider hein, par des conseils à comment s'y préparer. Mais au-delà de vos deux groupes cibles, je n'ai pas entendu que vous accompagnez également les étudiants à se rendre en Allemagne. Madame Folie? Alors que les Togolais, enfin, l'enseignement notamment supérieur et les formations professionnelles en Allemagne sont très prisées. Ici, chez nous au Togo, il se peut qu'il y en ait beaucoup qui soient intéressés, mais je n'ai pas cru entendre ça.
Oui, le projet se focalise sur ceux qui décident de vivre en permanence en Allemagne. Mm-hmm. Et alors que pour les visas étudiants, c'est peut-être les études sur 2 ou 3 ans. Mm-hmm. Alors que nous, notre projet, c'est de vivre en permanence en Allemagne.
Merci. Il y a ce que vous offrez comme accompagnement. Mais quand on suit l'actualité en Europe, l'Allemagne y compris, on a plutôt l'impression que l'Union européenne, en fait, bon nombre de l'Europe, dont l'Allemagne, se ferme à l'immigration. Est-ce que c'est une vue de l'esprit ou bien c'est quelque chose? Monsieur Damourou, est-ce que je vois mal ou bien je peux être dans le vrai?
Merci beaucoup, Sasgao, pour la question. Et effectivement, c'est la réalité, mais je crois que c'est un constat que tout le monde fait. Et nous allons transférer ou bien faire le feedback à qui de toi, mm-hmm. par rapport à ces questions, à ces inquiétudes et à cette plainte que nous recevons aussi.
Merci Isidore et Eric. Voilà ce projet intitulé « Vivre et travailler en Allemagne ». Vous avez écouté, c'est un projet qui concerne essentiellement deux groupes cibles, ceux qui veulent s'établir en Allemagne pour regroupement familial, ou bien ceux qui ont une qualification professionnelle prisée en Allemagne, et qui veulent s'établir, vous contactez le projet pour vous coacher. Eric?
Alors, deux petites questions. Ta dernière question. En fait, là, je peux résumer votre projet en ce que les Français ont eu à appeler...
L'immigration
choisie.
Voilà.
Et donc, c'est en quelque sorte cela. Mais la deuxième question...
seulement les Français, les États-Unis, les États-Unis également, le loto-visa... n'y va pas qui veut, mais qui a une qualification professionnelle minimale.
Voilà, comme nous sommes en Europe, c'est pour ça que j'ai donné l'exemple de la France. Maintenant, vous savez que l'Allemagne n'accepte pas la double nationalité. Et donc, ceux qui décident d'y aller, vous leur recommandez de perdre leur nationalité togolaise avant d'y aller, ou une fois établis là-bas, ils vont... changer de nationalité. Comment ça se passe puisqu'ils sont appelés à y demeurer à définitivement.
Mm-hmm. Madame Follet ou bien Monsieur Damarou, qui prend?
Question rouge.
Oui.
Non, question tout simplement.
En fait, je crois que ce domaine relève beaucoup plus. C'est une question qui relève beaucoup plus du niveau du consulat et de l'ambassade. Donc, nous arrêtons seulement. Nous focalisons sur l'orientation, le conseil les conseils et l'orientation. Mais quant à ce qui concerne la perte de nationalité ou si la personne décide de la garder, je crois que cela ne relève pas de notre domaine.
De votre projet.
Merci beaucoup.
Oui, Isidore?
Je pense que ce serait une grosse erreur puisque la personne va demeurer là-bas éternellement, selon votre projet. Il faut que la personne soit consciente et soit informée. Est-ce qu'il peut jouir de toutes ses prérogatives, de ses droits en tant que Togolais installé ou établi définitivement en Allemagne? Non, je ne le pense pas. Donc il faut prendre ça en considération.
Parce qu'après tout, quelqu'un va vivre quelque part, il doit bénéficier
des avantages.
De tout ce qu'il y a comme avantages sociaux, ou je ne sais pas. Oui. Mais si vous gardez votre nationalité, or l'Allemagne n'accepte pas la double nationalité. Donc voilà pourquoi.
Non, Eric, je pense que eux, si j'ai bien compris, ils expliquent tout ça là. Mais le choix revient à monsieur ou à madame de garder sa nationalité d'origine ou bien de la troquer contre l'Allemagne.
Désolé, puisque c'est vous qui vous êtes déplacé là-bas, il faut qu'on dit chez nous que nos dos doudés mais à moi les ont.
Et t'as dit.
Sinon, mais ils seront des déflatés là-bas.
Par exemple, plus de 30 ans, mais qui ont gardé leur nationalité togolaise. Hein. C'est pas tout le monde qui la perd comme ça.
Non, écoutez, bon, maintenant, qu'à cela ne tienne. Déjà, on a parlé d'immigration choisie. Il faut bien expliquer aux gens parce que ce n'est pas tout le monde qui y va.
Bien sûr.
Il faut leur expliquer ça. Et ce n'est pas toutes les compétences non plus qu'on cherche là-bas. Et maintenant, je voulais revenir sur l'interculturalité. C'est très important d'insister là-dessus pour que nos frères et sœurs qui vont là-bas ne soient pas dépaysés ou ne se retrouvent pas dans des dilemmes. Puisque vivre en Allemagne, à Berlin, ce n'est pas la même culture que Bavière ni Munich.
Oui.
Est-ce que cette interculturalité vous transmettez les coutumes, les rituels, tout ce qui se passe, et les éléments de langage qu'il faut quand vous déplacez d'une ville à une autre?
Oui, madame Folie.
Oui, nous avons des séminaires dans les semaines à venir sur cet atelier d'interculturalité. Tout d'abord, nous présentons notre propre culture et après, nous présentons la culture allemande. Parce que pour vivre aisément dans un pays à l'étranger, comme en Allemagne, il faut s'imbiber aussi de la culture allemande. Il faut connaître la culture allemande. Et donc, nous présentons les deux cultures, notre propre culture et la culture allemande.
Merci. Nous dévoilons juste ce projet qui a ouvert depuis le mois d'août et qui court jusqu'en juin 2025. Si vous êtes intéressé, vous rendez à l'Institut Goethe. Oui. Et vous trouverez les modalités avec Madame Folie ou bien Monsieur Damorou, hein, comment ça va se faire pour que vous puissiez vous rendre en Allemagne en toute légalité. Cela revient à vous-même individuellement, oui, l'ami?
Oui, je veux juste compléter ce que Madame Folie vient de dire concernant les séances de rendez-vous. C'est les lundis et les mercredis de 10h à 13h.
Et c'est important parce que l'Allemagne et la ponctualité.
Voilà, de 10h à
13h. Voilà, l'une des facteurs de ponctualité, d'interculturalité.
Oui. Et c'est, comme vous l'avez si bien dit, nous situons dans les locaux du Goethe Institut, non loin de la librairie Bon Pasteur. Ensuite, pour pouvoir avoir accès ou bien pour pouvoir bénéficier de ces séances de conseil d'orientation, il va falloir que les personnes s'inscrivent en ligne et qu'on puisse les programmer.
Oui. Voilà. Et le lien pour s'inscrire?
Le lien pour s'inscrire, c'est vous allez sur le site du Goethe Institut, www.goethe/lomé.
Oui.
Vous cliquez sur le menu langue allemande et vous atterrissez sur une page où il y a le volet vivre et travailler en Allemagne. Donc vous cliquez sur le menu et vous atterrissez sur une autre page où il y a des séances de conseil personnel. Sous le lien, vous allez trouver donc le formulaire à remplir pour pouvoir avoir accès.
Pour dire que le numérique devient une réalité de notre vie quotidienne, mais nous avons toujours les arts et la culture avec les artistes qui gardent toujours cette liberté d'enquiquiner un peu toute la société. C'est dans ce sens-là que nous découvrons cet article du journal L'Union intitulé que le groupe Les Togo All Stars vont monter sur scène à l'Institut français du Togo. Ce sera le 6 octobre prochain et c'est dans l'attente de leur troisième album. Eric?
Oui, c'est un groupe qui fait un peu dans le jazz avec une certaine modernité. Et c'est un groupe qui a déjà à son actif deux albums et comme tu venais de le dire, ils attendent leur troisième album qui va sortir bientôt le 3 novembre prochain. Et donc, ils vont prester à l'Institut Goethe, c'est pour
l'Institut français du Togo.
L'Institut français du
le
Togo.
Le Goethe, ce sera, ce sera prochainement.
Pour, pour mon immigration. Et donc, à l'Institut français du Togo, ceci octobre. Et après, puisque ça fait la deuxième année successive, quand ils finissent une tournée internationale, ils reviennent au pays pour montrer un peu ce qu'ils ont eu à faire sur la scène internationale. Mm-hmm. Et donc, ils seront là ce 6 octobre à l'Institut Goethe en prélude à la sortie de leur prochain album le 3 novembre prochain.
Et leur prestation du 6 octobre en attendant la sortie du prochain album, comme l'article dit, c'est dans le cadre de la Fela Brechin 2023 en référence au grand musicien, au grand artiste nigérien Fela Anikulapo Kuti. C'est dans ce sens le concert des All Stars des Togo All Stars promet un éveil spirituel et musical.
Oui, justement, vous savez, Fela Kuti, cet artiste nigérien qui est le père de
Femi.
Non, qui est
le père de l'Afrobeat.
De l'Afrobeat. Et donc, quand on parle de la musique africaine aujourd'hui, on ne peut pas ignorer tout ce que Fela a fait depuis son bas âge. Et vous savez qu'il a quand même son village, tout un
quartier. Il avait même sa république de Calcutta.
Calcutta. Et donc, c'est une référence. Et tout artiste qui se réfère à ce grand monsieur de la musique africaine pense effectivement à un réveil spirituel parce que quand on parle de l'afrobeat vous sentez dans l'afrobeat le jazz, le hip-hop, tout ce que vous ressentez aux États-Unis aujourd'hui a son origine dans cette musique afrobeat. Et donc je crois que les jeunes Togolais de la All Star essaient de s'identifier à Fela Kuti, mais il faut les voir sur scène pour comprendre ce dont il s'agit.
Ce sera le 6 octobre prochain. Isidore Fela Anikulapo Kuti, qui avait gardé, qui s'était illustré par son originalité dans tous les domaines. Il a été même rebelle vis-à-vis de la société un peu trop lisse, notamment vis-à-vis des politiques qui lui ont fait payer très cher. Mais voilà, il est mort physiquement, mais son œuvre demeure. La preuve, les Togo All Stars s'inspirent de lui dans leur création aujourd'hui.
Et là, c'est un monument. Rebelle, je dirais plutôt anticonformiste. C'est ça. Mm-hmm. Il est anticonformiste. Quelqu'un vient sur scène en slip.
Dans les années 70, c'est pas
maintenant. Dans les années 70, j'ai une fois rencontré Fela à Calcutta République.
Heureusement que tu ne viens pas au club de la presse en slip.
Non, j'avais rencontré Fela.
Non, lui, il n'est pas anticonformiste.
En 79.
Il peut être rebelle, mais pas anticonformiste.
Mais si vous connaissez l'histoire même de Fela, mais c'est un médecin de formation.
Oui.
Et dans on fait les hobbies. Et quand leur professeur de musique dit que sans les Européens, le monde ne connaîtrait pas de la musique, il dit non. C'est là où il s'est rebellé. En revenant, il est revenu avec son instrument. N'oubliez pas que la maman de Fela, c'était qui a fait beaucoup l'intelligentsia nigériane, y compris Obasanjo et autres. Donc, c'est quelqu'un qui a pris sa voie. Au lieu d'exercer comme son grand frère, la médecine, il a commencé par faire sa musique. et il a créé beaucoup de choses.
Merci.
C'est un anticonformiste et qui a éveillé la conscience des Africains.
Merci.
Donc Fela, ce n'est pas n'importe qui. Et heureusement que bon, ses fils, l'un de ses fils, il y a
Femi.
Il y a Femi. Et le grand frère de Femi aussi, qui s'essaie à la musique, mais ils n'ont pas cette notoriété que...
Ah, mais Femi,
il n'est pas facile de succéder à un monument, comme il a dit.
Femi, lui, son originalité, c'est de maîtriser tous les instruments devant.
Ouais.
Alors que le papa, lui, il est aussi claviériste, et ça se fournisse. Toutes ces choses-là.
Nous retenons pour l'essentiel que l'artiste, quel que soit le domaine dans lequel il exerce, ne doit pas oublier qu'il doit être un éveilleur de conscience. Fela a fait ce qu'il a pu. Les Togo All-Stars continuent à s'inspirer de lui. Et nous passons à un autre qui fait de même. Il s'agit de Ole Soyinka. C'est le tout premier prix Nobel de littérature d'Afrique noire. Honoré en 1986, ça date déjà, mais Ole Soyinka qui continue d'écrire, la preuve, il vient de publier son tout dernier livre en date intitulé « Chronique du pays des gens les plus heureux du monde ». C'est aux éditions Seuil. Et Eric, rien que le titre de ce livre de Ole Soyinka nous donne une idée de son contenu.
Oui, Ole Soyinka, en quelque sorte, est en train de faire une remise en cause de sa lutte. Au fait, il dit qu'il est politicien et écrivain. Il pense qu'à travers l'écriture, on peut aussi émettre des idées politiques pour faire avancer les sociétés. Aujourd'hui, il est en train de se poser la question de savoir si pendant tout le temps qu'il a écrit, pendant tout le temps qu'il a lutté, est-ce qu'il a atteint son objectif d'enfant? Parce qu'il rêvait d'une société, lumière pour son pays et pour toute l'Afrique. Malheureusement, sa réponse à travers ce nouveau titre est non, il n'a pas atteint ses objectifs. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il a été... il a vu la décolonisation. Il a participé à la lutte pour la décolonisation. Il a participé à des rébellions, par exemple, où une certaine société de femmes s'est rebellée pour réclamer le droit.
Donc justement, la maman de Fela, Nicolas Pokoutipe, Ole Soyinka
a connu. Et donc, à partir de ce moment, aujourd'hui, il est en train de voir que en Afrique, nous sommes en train de faire un pas en avant, plusieurs pas en arrière, surtout avec ces coups d'État de l'été dernier. Il a eu à citer tous ces coups d'État en Guinée,
au Mali, au Niger, au Gabon.
Et il se dit, mais avec ça, est-ce que nous avançons? Eh bien, c'est non pour Ole Soyinka.
Non, en fait, voilà chronique du pays des gens les plus heureux du monde. C'est aux éditions Seuil de Ole Soyinka. On peut aller acheter ce livre-là, le lire, et les débats vont continuer. Isidore?
La lutte de Ole Soyinka, c'est plus pour l'émancipation, certes, mais l'indépendance ou l'autodétermination de sa région.
Oui.
Delta du Niger.
Il a dit, il a expliqué.
Et c'est ça qui a valu et la décapitation de l'autre là. Kensaro Uwa. Donc c'est la même lutte. Donc c'est là où on puisait le pétrole. Et la population que vous allez au Delta du Niger, c'est la misère.
Oui.
Et ils se sont rebellés. Ils ont même formé des bandes armées pour pouvoir combattre les sociétés de pétrole. Et c'est dans cette lutte qu'il a grandi et autres là. Donc, bref, il voit que, bon, il part sans avoir atteint ses objectifs.
Oui.
Sa célèbre phrase, le nec ne tique pas, le tigre ne tique pas, ne crie pas sa tigritide. Sa tigritide, il bondit sur sa proie et la dévore.
Oui, ainsi est toujours Olé Choinka, qui reconnaît qu'à certains moments, il s'est comporté à la fois comme écrivain et politicien. Son écriture et sa politique ont coïncidé, mais il se rend compte que la littérature peut également être utilisée pour promouvoir des causes politiques. Oui. Même si personnellement, ses objectifs ne sont pas atteints, mais il nous exhorte toujours à ce que les arts soient au service de la société, attirer l'attention de tout le monde, continuer à montrer et il a la lumière.
Il a posé un acte lors des élections de Trump. Il a dit que si Trump gagnait les élections, il va quitter les États-Unis. Et il l'a fait.
Voilà, et même dans son pays, il a combattu tous les régimes, hein, oui. Aussi bien les militaires que les démocraties jusqu'à ce jour. Voilà l'homme de lettres que nous souhaitons également que le Togo produise. Des hommes d'une telle stature. Et cela nous amène encore à revisiter cette pensée du jour quand nous avons paraphrasé Docteur Nikabou Makani dans son tout nouveau livre apparaît justement Femmes rebelles, quand il dit que dans notre société d'aujourd'hui, qu'il qualifie dans nos républiques de Escobar, le mensonge est doux à écouter, la vérité amère à entendre. Nous allons maintenant nous intéresser à une vérité. Je ne sais pas si quelqu'un ici emploie déjà des travailleurs, hein, à domicile, qu'ils soient des hommes ou bien des femmes. C'est Togo Presse qui annonce le ton avec cet article « Réglementation du secteur des travailleuses domestiques », un document en cours de validation à Lomé, pour dire que c'est maintenant que nous sommes en atelier pour réfléchir sur un document portant réglementation des travailleurs domestiques. Et justement, Eric, oui. Ton journal L'Union, il fait un très bel article. Voici les extraits. Tu écris que le travail domestique n'est encadré par aucun texte spécifique au Togo. Évidemment, en 2023.
Évidemment, ça c'est au cours de cet atelier, justement, organisé par le Centre de recherche et d'action sur les droits économiques, sociaux et culturels, en collaboration avec la Fondation FJS, que cette information a été donnée. Et je crois que nous tous, il ne faudrait pas occulter la vérité, nous utilisons de ces gens chez nous, ces domestiques-là chez nous. Nous, quand on était encore jeunes, on en a connu, et nous-mêmes aujourd'hui, nous en employons parce que aujourd'hui, avec la vie que nous menons, nous sommes appelés à aller au travail. Nous ne pourrons pas nous occuper en même temps de la maison et de nos enfants, je veux dire de notre progéniture. Et donc, je crois que ces gens-là, nous avons besoin d'eux. Et comme on dit chez nous, logiquement, cela devait être pour Dole Gbigbo et Gbile Podogbo. Mais dans la pratique, est-ce que c'est véritablement cela? C'est à cette question que cet atelier-là veut répondre. Et les tests n'existent pas pour couvrir ces gens-là que nous appelons généralement les domestiques, les boys, etc. Parce que nous les payons comme ils viennent à nous, nous discutons directement avec eux. Nous exigeons même ce que nous pourrons payer, alors que s'il y avait des tests, tout le monde appliquerait ces tests. Mais de l'autre côté aussi, et au cours de cet atelier-là, il y a eu beaucoup de révélations. Et ces domestiques-là, aujourd'hui, sont de plus en plus rares, et les gens ont même peur de les engager, parce que aussi, à travers leur comportement, vous avez suivi quelques...
Ça déteint sur la progéniture.
Voilà, vous avez vu des vidéos qui sont passées ces derniers temps où des domestiques font un peu mal.
Maltraitent les enfants.
Les enfants, les domestiques qui, dans la cuisson de certains repas, font des choses impensables, etc. Mais toujours est-il que nous avons besoin de ces gens. Maintenant, au cours de cet atelier, une question est revenue. Est-ce que ces gens-là seront formés avant d'aller sur le terrain du travail?
Voilà.
Parce que vous avez des devoirs, vous voulez des droits aussi. Il faut que tout ça là soit concilié. Et désormais, vous savez qu'il y a des agences qui...
De placement de
cette domestique-là qui travaillent. Mais est-ce que ces domestiques-là sont véritablement formés? Il n'y a pas de test.
Merci.
Aujourd'hui, je crois qu'ils sont en train d'aller vers la mise en place de ce test-là. Encore que ce test-là va faire beaucoup de temps, avant d'être voté, peut-être par l'Assemblée.
Mais en attendant, il y a quelques chiffres dans ton article. On a dénombré plus de 21 000 travailleurs domestiques, dont plus de 80% de femmes.
Oui.
Et notamment les travailleuses domestiques qui sont fréquemment victimes de toutes sortes de maltraitances, comme les violences physiques, morales et psychologiques, et même des harcèlements sexuels. Mais quelques statistiques aussi, près de 30% de travailleuses domestiques n'ont jamais été à l'école.
Ouais.
Plus de 47% ne disposent pas de contrat écrit. Plus de 85% perçoivent moins de 27 000 francs CFA le mois, soit la moitié même du SMIC, actuellement Togo.
Ouais.
Et 77% n'ont pas été déclarés à la sécurité sociale.
Il faut que les patrons eux-mêmes soient déclarés d'abord.
Alors Isidore, c'est une question qui paraît banale. On emploie ces dames et ces messieurs à la maison. Avec le temps, nous-mêmes, les employeurs, on n'est pas toujours conscients des conditions peu flatteuses qu'on leur fait, les abus qu'on peut leur reprocher aussi, mais il va falloir quand même aller avec la réglementation en vue à ce que on arrive à un niveau de développement inclusif où ceux qui emploient les travailleurs domestiques soient satisfaits et que ceux-là aussi puissent vivre de leur travail.
Je vais te décevoir. Et pas mon approche. C'est une question sociale et sociétale. Il faut remonter à l'historique même de ces pratiques. Avant, c'est des cousines, des tantes qui demandent à ce que leurs enfants viennent rester auprès de quelqu'un. Et à l'époque, à Mekbonovi, c'est par là que ça a commencé. Et on ne les confondait, on ne les dissociait même pas des progénitures. On leur donne les mêmes formations. Les gens ont eu même à bénéficier de ça. Aujourd'hui, quand vous allez, ceux qui sont détiennent les étalages de Nana Benz, c'est des gens qui ont passé par là. Et plus après, par après, ce qui s'est passé, on ne trouvait plus de gens, des cousines, des nièces, pour venir travailler ou assister leurs tantes à Lomé. Et c'est par là que ça a commencé, les histoires de bonnes. Mais quand vous parlez de légiférer sur ce domaine, mais il va falloir remonter à l'histoire. Mais ceux-là, elles vivent, dorment, se nourrissent là-bas. Et la promesse, c'est quoi? On va t'amener en apprentissage.
Mais ce que tu dis, ça vaut pour le passé. Aujourd'hui, la réalité.
Aujourd'hui, ça existe
est-ce
encore.
Que comme ça.
Ça existe encore. Permets que je puisse terminer. Il faut intégrer ces éléments-là dans la réflexion. Sinon, on aura tout faux.
Je présume que.
Écoutez.
Comme l'atelier est en cours, je présume
ça finit aujourd'hui.
Que.
Non, mais là, c'est pas permettre de les intégrer.
Oui, ça finit.
Mais quelqu'un qui mange et qui est restauré, c'est. Mais maintenant, on va dire que tu vas le payer telle chose. Bon, est-ce à dire que quand elle fait le travail, elle est l'accusée, elle ne veut pas manger? elle ne va pas se restaurer. Elle va dormir ailleurs.
Venir. Le problème, c'est que le même travail existe sur les autres continents. Oui. Comment ça se fait en Europe?
Comment ça se fait en Amérique
et
permettez que je puisse terminer.
Il y a quand même un petit moment que tu parlais.
Oui.
On va écouter Eric.
Je pense qu'il y a une étude sociologique qui a été effectuée avant cet atelier. Et donc, les gens vont tenir compte de tous ces paramètres-là pour faire... Oui, puisque déjà, c'est eux qui ont sorti les statistiques. Ça veut dire qu'ils sont allés beaucoup plus en profondeur de la situation pour permettre de faire des recommandations et que ces recommandations-là vont permettre d'aller à une loi. Et donc, on ne peut pas dire que... Après cet atelier, automatiquement, on aura une loi.
Je reste dubitatif.
Dans
la mesure où, même nos mamans, qui entretenaient la maison au moment où les hommes allaient au travail, quand vous voyez leur qualification ménagère a un prix.
Oui.
Tout ce qu'elle fait là-bas.
Oui,
ça n'a jamais été comptabilisé.
Maintenant, on dit plutôt femme au foyer.
L'objet de cet atelier-là, c'est de trouver un meilleur environnement de travail à ces gens-là. Ce n'est pas qu'on va imposer des choses à tout le monde, mais lorsque ça devient une loi, ça s'impose finalement.
Alors justement, je voudrais savoir, l'auditeur voulait savoir si on a approché ces cuisinières, ces blanchisseurs, blanchisseuses, ces chauffeurs, jardiniers, gardes-enfants. Est-ce qu'on les a approchés pour avoir également leur contribution à l'atelier?
Bien sûr que oui, parce qu'il s'agit d'une organisation non gouvernementale qui a travaillé sur le terrain. Et on ne peut pas venir parler des gens qui n'ont pas été écoutés. Et d'ailleurs, même au cours de cet atelier, il y a ces gens-là que nous appelons les domestiques qui y participent. Parce que certains ont aujourd'hui pour métier ce que nous appelons born ou boy. Et donc, ils ont au moins un bagage intellectuel qui leur permet aussi de réfléchir à la chose, de dire voilà dans quelles conditions nous voulons travailler. On ne va pas
Isidore, une auditrice dit que tu parles du passé avec certaine fierté, mais que tout ne fut pas si rose.
Évidemment.
Pour ces pauvres filles venues de village, certes, un grand nombre a été proprement exploité. Elles restaient à la maison, les enfants de leurs tantes, oncles ont fait des études, beaucoup sont restés sur le carreau.
Je renvoie la question à celle qui a posé la question. Allez au grand marché, voir ceux qui détiennent maintenant les commerces.
Mais combien sont-elles?
Elles sont nombreuses.
Non. Et, si. Et à côté de celles qui n'ont pas réussi, Isidore?
Peut-être.
Tu sais, je suis de la petite de Vaud.
Peut-être.
Et Vaud qui est bien malgré nous.
Mais écoute,
gros pourvoyeur de travailleurs, travailleurs domestiques.
Oui.
Je sais qu'il y a très peu de réussite pour beaucoup plus d'échecs.
Et nous-mêmes qui avons été à l'école, combien sommes-nous à avoir la retraite sans avoir le premier emploi?
Au moins tu as été à l'école et tu...
Sans avoir le premier emploi.
Oui, mais au moins tu as été à l'école et
donc, c'est un problème sociétal.
Merci beaucoup. Enchaînons justement avec l'école. Nous sommes dans la deuxième semaine de rentrée et l'école ne manque pas de nous fournir d'éléments au jour le jour. Et aujourd'hui, ce sur quoi l'Union attire notre attention, c'est la note que le ministre Kokoroko, on nous dira encore lui, a sortie hier pour rappeler à l'ordre tout le monde pour le développement intellectuel progressif et équilibré des apprenants. Parce que Kokoroko fait le constat qu'il y a encore des écoles qui acceptent au CP des élèves, des enfants qui n'ont pas 5 ans révolus. Et puis, dans certaines écoles, on se permet même de sauter les classes intermédiaires à certains enfants. Kokoroko nous rappelle que tout ce qui peut travailler dans un trimestre n'est pas nécessairement génie et qu'il faut laisser les enfants suivre leur cursus.
Oui, évidemment.
J'ai pas compris la question. C'est-à-dire que... Est-ce que maintenant, il faut avoir 6 ans révolus avant de faire le CP1?
C'est ce que les pédagogues recommandent. Un peu partout dans le monde.
Ce n'est pas évident.
Non, Isidore, dans le monde. Nous avons parlé de l'Allemagne.
Je vais,
un enfant ne peut pas entrer au CP1 s'il n'a pas 6 ans révolus ou bien s'il n'en est pas à quelques mois près. Madame,
alors,
je me trompe ?
Non, c'est ça.
Ok.
Alors, Eric. Moi, je vais encore aller plus loin. Dans les pays scandinaves comme la Finlande,
la Suède, la Norvège, le Danemark.
Mais l'enfant, il commence l'école, il fait au moins 2 ans à toucher, c'est-à-dire à faire
manuellement.
Pendant 2 ans, ça veut dire que c'est à partir de 8 ans que l'enfant est au CP1. Et donc, ce que Cocoroco est en train de dire aujourd'hui, c'est surtout le constat qu'il y a des élèves à qui on saute des classes. Mmh. Alors, Cocoroco est en train de dire que le cours primaire, c'est 6 ans.
Du CP1 au CM2.
Du CP1 au CM2. secondaire 1, c'est 4 ans.
De la 6e en 3e. 6e
en 3e. Et secondaire 2, de seconde à terminale, 3 ans. Et il faut que tous les enfants passent ces années-là pour pouvoir se développer intellectuellement. Parce que à certains niveaux, et personnellement, je l'ai constaté, même dans ma famille, il y a des gens à qui on a sauté des classes, mais plus tard, qui ont été bloqués. On n'a pas compris quelqu'un qui a brillé pendant son cursus, enfin le cours primaire. Il a peut-être fait 3 ans, il a déjà eu son CP, et arrivé en 6e, très rapidement, il a son BPC, mais après, l'enfant a des problèmes pour aller plus loin. Des gens sont bloqués parce que ils n'ont pas fait tout le cursus comme le recommande aujourd'hui Cocoroco. La deuxième partie de la question, c'est ce que tu as soulevé. On dit aujourd'hui que un enfant ne peut plus passer le CEPD s'il n'a pas plus de 10 ans, c'est-à-dire 10 ans révolus. Mais on constate que des gens disent que les enfants, là, ils sont surdoués. Mais Cocoroco est en train de dire un truc très important, c'est que lorsqu'on constate qu'un enfant est surdoué, cet enfant-là est encadré autrement. L'enfant ne suit plus le cursus normal, mais il y a des conditions dans lesquelles cet enfant-là peut évoluer et faire son apprentissage à l'école. Donc voilà en gros ce que la circulaire de Cocoroco est en train de dire. C'est sorti hier, je crois, et donc nous on a essayé de mettre cela pour que les gens comprennent qu'il ne faudrait pas bloquer les enfants en pensant qu'ils sont surdoués et qu'ils ne peuvent pas faire par exemple faire ce 1 et faire ce 2. De ce 1, on envoie au CM1. CM1, on passe au CP2.
Autrement dit, laisser les enfants grandir progressivement afin que l'âge scolaire coïncide avec l'âge physique aussi. Voilà. Isidore ?
Non, moi, je suis un pur produit de ça. J'ai eu mon CP à 9 ans et quelques.
Et tu n'as pas été bloqué quelque part ?
Nulle part.
Et après tes études ?
Non. Après mes études, ça c'est différent, c'est la vie active. Non, écoutez, ça c'est du mimétisme. Même ceux qui en parlent là, leurs enfants, il faut aller chercher. Leurs enfants n'ont pas eu 4 ans avant de commencer.
Nous parlons de principes.
Laissons les principes.
Il y a des déceptions d'abord.
Mais écoutez,
mais d'abord,
écoutez, il a parlé tantôt des gens à qui on saute des reins. Moi, j'ai une nièce à qui on a sauté la classe. Elle n'a pas fait CE2. Elle n'a pas fait CM2.
Au Togo ici.
Au Togo ici. Oui. Elle a réussi brillamment. Jusqu'à présent, elle était partie en Europe pour faire la médecine. Elle n'a jamais eu de problème. Même ma fille.
Mais c'est des cas.
Écoutez.
Et on ne dit pas non.
Écoutez. Donc, permets que je termine.
Oui, termine.
Il ne faut pas bloquer les génies. On a connu en Europe les gens qu'ils ont eu leur licence à 14 ou 15 ans. c'est des génies. Mmh. On a organisé ça des surdoués. Mmh. Il faut maintenant.
Mais justement,
il faut maintenant. Non.
Ils sont combien?
Ils sont nombreux.
Non, combien?
Ils sont nombreux.
Quel pourcentage au moins?
J'ai pas les statistiques. Mais c'est qui?
Mais c'est sur ça, ça il faut.
Mais ça
baser.
Existe. Faudrait pas qu'on étouffe les génies.
Oui, je suis d'accord.
Par mimétisme.
Il y a eu des Albert Einstein. Il y a eu des Blaise Pascal,
oui, oui.
Il y a eu des Léopoldo Senghor,
il y a eu des débâches.
Il y a eu des Isidore Akolor.
Oh non, mais, écoutez, je n'ai pas eu de référence.
Mais Isidore, le problème ma petite expérience, j'ai quand même 18 ans d'enseignement et nous avons été formés à la psychopédagogie à l'université du Bénin en son temps. C'est un principe admis que l'enfant n'entre pas au CP. S'il n'a pas 6 ans révolus ou 6 ans épreuves, c'est pour
génie.
Son équilibre.
Vous tuez les génies.
Ok. Le débat reste ouvert. En tout cas, je conviens que ce que Cocoroco rappelle, c'est un principe un peu partout, même aux États-Unis d'Amérique. Hein, tout le monde n'est pas génie. N'allons pas trop vite en besogne pour étouffer nos enfants. C'est ce sur quoi Cocoroco attire l'attention, Eric.
Et je dis.
Il ne faut pas les surcharger. Mais les vers ne s'étouffent pas non plus.
Cocoroco a encore raison. Du fait que lorsqu'on voit qu'il y a un enfant qui est surdoué, il faut l'encadrer autrement.
Et quelle est la structure qui va l'encadrer autrement? Qui va détecter ces talents-là?
Mais justement...
Qui va détecter ces génies?
Mais justement, Isidore, tout le monde a été premier de sa classe.
Pas tout le monde.
En tout cas, je le dis.
C'est ce que les parents disent souvent, mais c'est pas toujours vrai.
Je le dis en connaissance de cause. Je dis, les gens ont été premiers de leur classe. Et pour autant, on ne leur a pas sauté de classe. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas le faire. Mais en le faisant, est-ce qu'on aide l'enfant à progresser?
Ah oui.
Et avec. Tout dépend
de sa capacité intellectuelle.
Oui, justement. Okay,
merci. Non. On ne va pas clore le débat ici.
Comme tu le disais,
il
faut des exceptions pour confirmer la règle.
Merci.
Et puisque ce n'est pas une règle générale, c'est pour ça que je te donne l'exemple de tous ceux qui peuvent être premiers, tous ceux qui peuvent être
merci. En avance. Allez dans la maison de ces ministres, ces choses-là.
Voyez, nos enfants, on nous invite à ne pas prendre pour génie des enfants pour qui on a pris leur enseignant de l'école comme répétiteur à la maison.
Non, ça jamais.
Si cet enfant travaille
non,
bien,
non,
il ne faut pas le prendre
c'est
pour
pas de
génie.
Ce n'est pas de ça que je parle.
Laissons-le
c'est
faire
pas de
son
ça que je parle. Ce n'est pas de ça que je parle.
Merci.
À notre époque, nous n'avons même pas eu la chance d'avoir des répétiteurs.
Merci. Nous allons terminer par cette information qui circule depuis quelques jours. Et avant d'y aller, on peut paraphraser l'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing qui disait que la France n'a pas de pétrole, mais la France a des idées. Mmh. Alors, pour le paraphraser, Eric, on peut dire que le Togo n'est pas grand producteur de café cacao, mais le Togo a des idées, pour ne pas dire des génies. La preuve, c'est un Togolais qui préside l'Organisation internationale du café actuellement.
Oui, il s'agit d'Anselme Gouton, qui a été élu président de l'Organisation internationale du café depuis le mois de septembre. Et donc, il a pris ses charges à partir du 1er octobre dernier. C'était
il y a juste trois jours.
Et donc, oui, effectivement, il faut voir ce monsieur sur le terrain. Il s'est beaucoup battu. Il assiste à...
Il n'a pas fini. Il continue à se battre.
Oui. Avant sa nomination, avant son élection, je voudrais dire, c'est un monsieur qui est sur tous les terrains. Lorsqu'on parle de café, il est toujours présent. Et là même, il vient de quitter l'Inde pour une rencontre qui va se tenir, je crois, dans 2 jours en Côte d'Ivoire, où le Togo a été invité. Et donc, je crois que ce monsieur-là, il se bat en disant que les producteurs de café doivent vivre de leur travail et de leur production. Et donc, ceux qui aussi exploitent, les exploitants, les commerçants et tout ça, doivent aussi bénéficier de cela parce que il ne suffit pas de produire, mais il faut aussi écouler le produit sur le marché. Maintenant, quant à ce qui concerne la qualité du café, il se bat également pour que le café togolais soit reconnu comme un café prisé de par le monde.
Merci. Et son action à l'international, Anselme Couton veut la bâtir sur trois piliers. Oui. Et comme nous parlons du café, je nous rappelle que nous sommes au troisième jour du mois d'octobre, le mois du consommer local. Je présume que les amateurs de café que vous êtes, que vous avez pris votre café ce matin, c'est café vraiment made in Togo. Vous connaissez qui aimait le café. Nous sommes en octobre. C'est le mois de la promotion du consommer local.
Ça, je viens de prendre du café de Bégan
okay.
ce matin.
Et j'espère que tu dis vrai.
Je dis vrai.
Merci
beaucoup. Et il y a des confrères qui peuvent témoigner de cela parce que j'ai découvert ce truc-là dans un supermarché, je crois. Bon, je ne vais pas faire de la publicité. Mais
si, on peut se le permettre.
C'est Aramco que j'ai vu ce café-là.
Ce n'est pas Cappuccino que j'ai appris.
Non. Et donc, je l'ai découvert et j'ai commencé par.
Eh bien, pour le café, pour le cacao, pour la musique, pour les écrivains, pour les couturiers, couturières, pour les commerçants, pour les maraîchers, nous sommes en octobre. Faisons au moins l'effort de consommer ce que nous produisons dans ce mois. Ce sera une façon de faire la promotion de ces producteurs et un peu renflouer nos caisses. La souveraineté, le panafricanisme, ça passe aussi par là. Il est midi, nous observons une pause, mais nous remontissons dans un moment avec vos questions et vos commentaires sur les deux numéros, le 22 21 33 74 ou le 91 36 33 75.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Nous avons rappelé les 33 ans de la réunification de l'Allemagne avec le projet Vivre et travailler en Allemagne avec nos amis Madame Folli et l'ami Damoro. Et puis on a parcouru nos rubriques traditionnelles, l'artiste dans la société avec le groupe musical Les All Togo Stars qui s'inspire de Fela Nicolas Pokuti pendant que Wole Soyinka à près de 90 ans, vient de publier son dernier livre intitulé « Chronique du pays des gens les plus heureux du monde ». On a parlé d'autres sujets, notamment les travailleurs, travailleuses à domicile. Et puis le Togolais Anselme Couton qui préside l'Organisation internationale du café. Et la dernière directive du ministre Kokoroko qui rappelle au respect de l'âge minimum et de l'équilibre psychologique et autres de nos enfants à l'école. À présent, la parole est à vous. Libre à vous d'émettre vos avis, vos critiques, vos commentaires et vos questions. Un premier auditeur en ligne.
Oui, Georges, bonjour.
Bonjour, c'est l'ami Georges.
Non, c'est pas Georges, ça c'est Karim.
Karim.
Oui, Karim le taximan.
Ok.
Je salue, donc, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi je demandais à l'autre là, quand il doit parler, l'autre là ne veut pas lui laisser tranquille parler. Alors quand lui parle, il doit se taire.
Je suis à la manœuvre, c'est pas toujours le cas. Mais tout ça participe au jeu de. C'est la vivacité du débat tout court. Il n'y a pas autre chose.
Ok, pourquoi vous avez parlé des domestiques, vous n'avez pas parlé des chauffeurs aujourd'hui?
Non, j'ai parlé de tous ceux qui travaillent à domicile. J'ai cité les cuisiniers, cuisinières, les chauffeurs, les jardiniers, les gardes d'enfants, tout.
Il faut toujours parler des chauffeurs, c'est nous qui sommes les priorités, c'est nous qui conduisons les bosses et ne nous payons pas bien. C'est nous qui sommes priorités.
Okay. Chacun est priorité, Karim.
Ça, vous savez, hier,
oui. Il
y a un directeur qui m'a appelé, je ne vais pas appeler son nom à l'antenne. Il m'a demandé, vous voulez faire le recrutement d'un chauffeur. Je lui ai dit, combien tu vas payer le chauffeur? Il dit, il va payer à 50 000 le chauffeur. Je dis, non, 50 000, le déplacement de la personne, ça ne peut pas aller. Ou soit je vais essayer de discuter avec le chauffeur d'abord, si c'est bon, je vous fais signe. Mm-hmm. Après tout, je l'ai appelé que mon chauffeur est d'accord, qu'il va prendre les 50 000. Mais il pourrait lui trouver un déplacement, quand il achète lui peut-être une moto de deuxième à 300 000, il va prélever ça chaque fin du mois au moins à 20 000. Avec 30 000, le gars peut gérer à la maison et il va faire
ses dames. Ici à Lomé, vivre avec 30 000 francs, Lomé ici.
Ça, c'est mieux de rester à la maison. Je vous parle, non? Je vous parle.
Okay.
Je vous parle.
Ok.
Maintenant, le boss me dit qu'il n'y a pas de souci. J'appelle le chauffeur, on arrive chez lui. Il me demande la moto coûte combien. Il dit, bon, on a quand même donné 400 000, on va payer la moto. Il appelle sa femme sort. Sa femme dit, non, si le chauffeur veut travailler, il est payé à 50 000. Il n'y a pas de contrat, on ne va pas lui payer une moto. Qu'eux, ils ne font pas ça depuis plus de 10 ans. Ils prennent les chauffeurs, ils n'ont jamais fait ça.
Mm-hmm.
Et j'ai appelé mon chauffeur de part, on n'a qu'à partir.
Ok.
Vous voyez comment les gens se comportent dans
donc ce pays. Donc, c'est ce que
le, on est parti.
C'est ce que monsieur voulait faire et que madame a refusé.
Et madame a refusé.
Merci beaucoup, Karim. Merci, Karim. On va passer aux autres auditeurs qui s'impatientent en ligne. Bonjour.
Bonjour, monsieur Sass.
Oui.
C'est Abdoul.
Abdoul.
Oui.
Nous vous écoutons.
Bon, c'est bon de limiter l'âge pour les enfants avant d'aller à l'école. Mais où les enfants vont aller rester à l'école? Depuis l'arrivée de Kokoko, il n'a pas encore construit les bâtiments.
Si, si, il en construit. Il y a encore des besoins. Mais l'année dernière, on a construit de nouvelles écoles. On a construit également de nouvelles salles de classe.
Eh bon, pourquoi ils avaient oublié la localité de Blita jusqu'à les bâtiments?
Mais vous-même, vous avez dit, on a oublié. Maintenant, on se rappelle.
Et il n'a qu'à se rappeler dans les petits coins, dans nos villages. Les grosses voitures n'ont qu'à vendre ça, construire les bâtiments.
Merci. Le besoin est réel. La preuve, ce matin, j'apprends que dans mon Haute-Tué, hein, on continue d'avoir 107 élèves dans des classes de 6e, 5e, 4e. Mmh. Ça a failli me gâcher toute la journée. 105 élèves en classe de 4e.
Je fais une interrogation.
C'est dire qu'il y a encore des besoins de construire hein, de nouvelles écoles, de construire de nouvelles salles de classe, de recruter de nombreux enseignants. C'est les défis que, non seulement Kokoroko, mais nous tous, nous devons relever. L'auditeur suivant, bonjour.
Oui, monsieur Sass, bonjour.
Oui.
Oui. Moi, je suis parfaitement d'accord avec monsieur Kokoroko.
Mm-hmm.
Faut laisser l'enfant suivre le cours normal des choses. Depuis l'âge de 6 ans. Moi, en 89, on m'a proposé ça. J'ai décliné l'offre. Parce que j'étais un peu mieux. Il m'a dit de passer le CPD au lieu de 89. 90, il m'a proposé 89. J'ai dit non, je vais suivre le cours normal des choses.
Mm-hmm.
Le directeur, c'était d'or au
cours. Oh, 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 respectons la mémoire de ce directeur.
Ah, vous le connaissez?
Non, non, je ne veux pas le connaître, mais parlons des choses et non pas des hommes.
D'accord.
Mm-hmm.
Donc
Sylvain, vous étiez un petit génie en votre temps.
Ah, mais oui.
Et maintenant?
J'ai passé à fumer avec. Donc, Kokoroko a raison. Pour faciliter le CV des enfants, il faut que l'enfant suive le CV.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Même s'il est classe, il faut l'accompagner, c'est tout.
Merci beaucoup.
Oui, merci.
Je vous en prie. Le suivant en ligne. Vous ne voulez pas aller vivre en Allemagne, travailler en Allemagne?
Allô?
Oui, bonjour.
Monsieur Garou.
Monsieur Garou.
Vous savez, vous voulez envoyer des gens au chômage. S'il faut vraiment aller déclarer tout ce monde-là, celui qui mène les emplois, qui l'a déclaré, monsieur, bonne journée.
Non, monsieur Garou.
Oui.
Mais celui qui travaille chez vous à domicile, lui aussi, il a besoin de vivre dans un appartement acceptable, oui, envoyer ses enfants à l'école, avoir une moto, avoir son téléphone, avoir son téléviseur à la maison.
Je suis parfaitement d'accord avec vous.
Oui.
Il faut que le gouvernement les déclare pour nous. Monsieur, bonne journée.
Est-ce qu'il travaille pour le gouvernement, monsieur Garou?
Non, 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 le gouvernement n'a qu'à aider les gens, non. Et la richesse du pays, ça va où alors? Yo, et Gomery, merci.
Bon, décidément, je t'en dis, pauvre gouvernement, que nous chargeons de tous les maux. Donc, le gouvernement maintenant va payer ceux qui travaillent chez nous à domicile. Du courage à Fort Nyasingbe. L'auditeur suivant.
Allô.
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Oui, monsieur Kofi.
Monsieur Kofi.
Oui.
Nous vous écoutons.
Vous parliez tout à l'heure d'un groupe musicien qui devrait rester au centre culturel français.
Oui.
À chaque fois quand j'apprends cela, ça me rend triste que les Togolais qui sortent un album et c'est au centre culturel français.
L'Institut français du Togo, comment ça s'appelle maintenant?
voilà, qu'il doit aller prester. Pourquoi?
Mais parce que...
Vous parlez de... ils font ça en mémoire de...
Fela. Fela.
Fela.
Oui.
Voilà. Pensez que Fela serait là, il irait là-bas, presté.
Mm-hmm.
Vous en êtes sûr?
Il a son truc shrine. Oui. L'ami Kofi. Bon.
Ça reste en suspens.
Non, je vous vois venir, c'est que le Togo ne dispose pas de salles de spectacle, ce qui fait que nos artistes vont soit à l'IFT ou bien à Goethe Institut. C'est une réalité.
Je vais vous dire, même en France, hein, ça ne se fera pas dans un institut togolais. Même si c'est dans un parc,
mm-hmm.
pour aller voir la mairie pour le faire, ou dans, je sais pas, dans une maison de la mairie, ça se fera là-bas.
Oui.
Ça, on boucle.
Vous avez raison. C'est une question de fierté nationale. Si voilà. Le Togo n'aménage pas des salles d'expression à ses artistes, ce n'est pas bien. Ce n'est voilà. pas bien. Je vous le concède.
Bon. Revenons à ceux qui disent d'aller vivre en Allemagne.
D'aller vivre et travailler en Allemagne.
D'aller vivre et travailler en Allemagne. Je pense que c'est de l'utopie. Quand des gens me parlent de regroupement familial. Regroupement familial, je ne vois pas pourquoi il faut encore tous ces détours. Non. Puisque déjà, je me refais toujours sur la France. À l'université là-bas, nous avons une option qui dit vivre en Europe. Même nous, ou bon, disons, si vous êtes étranger, vous êtes dans l'université là-bas et vous optez pour cette filière, je vous dis que vous n'irez pas là-bas. Vous n'êtes pas européen, vous n'irez pas. Et déjà, même dans l'option, vous apprenez tout. La civilisation allemande, par exemple, si on prend l'allemande, vous allez apprendre le fonctionnement des Länder là-bas. Hein? Tout et tout. Donc, s'ils nous disent là, moi, je pense que même s'ils disent qu'ils ne touchent rien, non, après, je sais qu'il y aura des frais.
Mm-hmm. Eh bien, ils sont encore là. Je vais passer la question à la fin. Merci, l'ami Kofi. L'avant-dernier auditeur aujourd'hui, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui.
Comment est Johannes?
Mm-hmm.
Mangeons.
Ah bon?
Bon appétit.
Nous sommes encore au studio, nous.
Ok. Là, je vous invite après.
Ok.
Je ne sais pas, j'ai l'impression que vous n'avez pas parlé du drame à Blita aujourd'hui.
Nous en avons parlé hier, pas aujourd'hui. D'accord.
Ok. J'aimerais tout simplement dire à M. Kokoroko, ministre Kokoroko, c'est bien là, de toute façon, la mesure qu'il a sortie, c'est une bonne mesure. Ça permettra à ce que tout le monde soit au même pied d'égalité. Si tout le monde est au même pied d'égalité, je pense que ça ne dérange plus personne. Parce que c'est parfois, ça frise la concurrence. C'est-à-dire, le fils du voisin a eu son CPD à 8 ans. Donc, je mets mon dernier enfant, je le mets à l'école à partir de 2 ans et demi, 3 ans. Pour qu'il ait aussi son BPC ou bien son CPD à 8 ans. Mais si tout le monde est sur le même pied d'égalité, cette petite concurrence-là n'aura plus lieu.
Mm-hmm.
Mais j'aimerais quand même dire au ministre que ça fait bientôt 2 ans que le CGBOK a été fermé et jusqu'alors ça n'a toujours pas été reconstruit.
Oui.
Donc qu'il pense à ça aussi.
Merci.
Les priorités sont à des niveaux aussi.
Merci. Rappelez encore, les défis sont nombreux sur le terrain. Nous devons en être conscients et y travailler. Eh bien, merci aux auditeurs. Ils nous ont attiré notre attention sur des points pertinents. Madame Folly,
oui.
Finalement, est-ce que vos prestations, votre accompagnement, c'est payant ou bien c'est gratuit pour ceux qui veulent et migrer en Allemagne?
Et je le reconfirme que notre prestation concernant nos conseils personnels, nos séances de formation et d'information sont gratuites.
Mm-hmm. et vous aider, juste vous expliquer si quelqu'un veut rejoindre son conjoint, sa conjointe, oui. comment il doit s'y prendre.
Oui, quel est le niveau
de la législation allemande.
Oui, quel est le niveau de langue nécessaire qu'il faut, mm-hmm. les formalités à faire pour pouvoir rejoindre son mari.
Et même chose pour les travailleurs qui ont une qualification professionnelle demandée en Allemagne.
Oui.
Mais je vous prie d'y ajouter le sort des étudiants. Les jeunes Togolais qui veulent aller étudier en Allemagne, il faut leur faciliter. Si on a la bourse, ou bien si les parents ont les moyens, et si le jeune ou bien la jeune fille a la tête bien faite, faciliter-lui ça. Et surtout, la procédure d'obtention du visa pour l'Allemagne actuellement, j'ai pas voulu qu'on ouvre la page, parce que si on l'avait ouverte, on ne l'aurait pas fermée de toute l'émission. Je vous prie de transmettre cette préoccupation au directeur de Goethe Institute,
oui.
qui va à son côté en parler également au consul et à l'ambassadeur d'Allemagne. C'est une préoccupation vraiment qui tient à cœur aux Togolais.
Oui, nous avons pris acte et nous allons faire ce que vous avez demandé.
Je compte sur vous. De toute façon, nous sommes voisins. Hein?
Oui.
Ok.
J'aimerais juste ajouter, de Moreau. Oui, juste un détail. C'est que par rapport aux étudiants, il y a déjà le service du DAD. Quand des gens arrivent pour les études, nous orientons ces personnes-là vers le DAD qui est mm-hmm. chargé de pouvoir les conseiller dans ce sens.
Mm-hmm.
Donc c'est pourquoi, comme Mme Folli l'a si bien dit, pour le moment, le projet concerne excessivement ces deux groupes-là, le regroupement familial et les travailleurs qualifiés. Donc quand des gens viennent et qu'au cours du conseil, elle voit que la personne a beaucoup plus des intentions d'études,
mm-hmm.
elle dirige.
Vous le référez vers le DAD. C'est le Deutsche Akademische Austauschdienst.
Exactement.
Merci. J'en ai un peu bénéficié lorsque je fus étudiant à l'Université du Bénin. Hein, le DAD nous avait facilité un stage à Bayreuth. C'est déjà en 1987.
Wow.
Celui qui manipule les boutons là-bas derrière la vitre n'était pas encore né.
Mmh.
Isidore Akolo, une minute.
Une minute pour revenir sur cette disposition où rappeler les gens que les enfants doivent avoir 6 ans. Bon, quand cela ne tienne, moi, ça ne me gêne pas. Hein. Mais comment faire la sélection
Non, ça ne te gêne pas parce que n'as pas d'enfant de moins de 6 ans. Oui,
laisse-moi terminer. Et comment faire la sélection des boursiers à compétences où vous avez le même diplôme, vous avez le même moyenne? On attribue la bourse à celui qui est moins âgé. Déjà, il y a une défaillance à ce niveau. C'est le plus jeune qu'on privilégie. Donc, il y a anachronisme.
Oui.
Créa dans ce sens-là.
Eric, la parole à Isidore.
Donc, il faudrait que, si tel est le cas, si on veut donner la bourse aux gens, qui est plus qu'un critère d'âge pour donner les bourses, si c'est ça qui doit se faire, je serais d'accord. Pour le reste, là, c'est de l'anachronisme.
Merci. Et tu boucles tout ça par un carton de fin d'émission?
Non, j'ai pas de carton.
Merci. Et Eric?
Moins âgé, ça peut être un jour ou une semaine. Donc, on ne peut pas. Ce critère-là va toujours exister. Hein,
Pourquoi alors?
Ce n'est pas une question de quelqu'un plus âgé de 10 ans, de 5. Non, ça peut être. Moi, je veux juste. Puisque le journal du jour a donné deux alertes. Hein, surtout celle qui concerne la consommation de piwata en cette période très chaude.
Oui.
Et il y a un genre de piwata qui circule dans la ville de Lomé qui, ma foi, personnellement, je l'ai bu. J'ai bu de l'eau de robinet. Parce que quand je prends du piwata d'autres sociétés, d'abord la sensation que j'ai, c'est pas la même chose. J'ai senti que j'ai bu de l'eau, c'est-à-dire qu'on a pris juste de l'eau de robinet pour en sachet et vendre. Donc il faut que le département du commerce intérieur du ministère du commerce qui ne baisse pas la garde, parce que en temps il y a eu des sorties hein, pour vérifier quand même les licences reçues pour, par ces sociétés qui produisent du Pure Water. Donc il faut...
ton alerte, attention aux marques d'origine douteuse pour l'eau en sachet. Veux-tu parler de deux alertes?
Oui, la seconde c'est par rapport aux avortements non sécurisés, une étude qui a été rendue publique par l'OMS. Hein, pour dire que plus de combien de 400 millions ou 40 millions d'avortements annuels sont
pratiqués annuellement.
Et c'est pas du tout sécurisé et ça met la vie des femmes en danger. Donc c'est une alerte de l'OMS.
Merci, je ne suis pas femme, ça ne me concerne pas trop, mais quelqu'un, une femme qui ne veut pas avoir d'enfant, n'est-ce pas mieux de ne même pas tomber enceinte quand tu es une femme, que tu ne veux pas avoir d'enfant, accident, est-ce que ce n'est pas mieux accident, de ne accident, même pas tomber enceinte?
C'est accident.
Bon, Madame Folly, ce n'est pas pour répondre à ma question, oui, mais c'est pour votre mot de fin sur le projet « Vivre et travailler en Allemagne ».
D'abord, je vous remercie pour l'invitation. Je remercie tous les collègues qui sont ici. Et j'aimerais dire à la population togolaise que ceux qui font partie du regroupement familial ou ceux qui font partie de notre groupe cible travailleurs qualifiés, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à l'Institut Goethe. Nous sommes là pour vous conseiller et pour vous accompagner du pays d'origine jusqu'au pays d'accueil.
Et c'est merci gratuitement. Beaucoup.
Et c'est gratuit.
OK. Eric, j'ai oublié de prendre ton carton de fin d'émission.
Ah non, c'est un carton vert pour le projet Nouaki Togo Bénin. Vous savez que nous avons beaucoup de difficultés hein, dans la partie septentrionale à cause du djihadisme et du terrorisme. Et donc le Togo et le Bénin aujourd'hui arrivent à travailler ensemble hein, pour développer des projets communs hein, pour quand même éviter que nos populations soient encore menées dans ce djihadisme-là. Vous savez qu'on vient recruter des jeunes parce qu'ils n'ont rien à faire. On vient les prendre pour les amener.
Merci, merci. Les auditeurs qui voudraient savoir où est-ce qu'ils peuvent trouver le roman « Femmes rebelles » de Dr Nikabouk Makani. Gardez votre mal en patience. Très bientôt, hein, je vais l'approcher et je vous dirai. Hein, c'est juste la primeur de ce roman que nous vous donnons aujourd'hui. C'est fini. Bon appétit. Le club de la presse se retrouve demain à 11h, si Dieu le veut, et prions que Dieu le veuille, effectivement.